Alors, Catherine Renaud est étudiante à la maîtrise à l'Université McGill sous la direction de Michel Biron. Elle vient de déposer son mémoire intitulé « Gros mots, le récit circulaire de Régent Duchard ». Elle nous propose aujourd'hui la communication « Résistance du personnage et circularité dans Gros mots » de Régent Duchard.
Bonjour tout le monde. Juste avant de commencer, je veux juste m'excuser si ma communication peut vous paraître un peu hermétique ou encore incomplète. C'est que, dans le fond, cette communication-là s'inscrit dans un travail de recherche beaucoup plus vaste sur cette œuvre-là. Donc, j'ai dû seulement choisir un tout petit extrait. je commence ici. La vie dans l'univers romanesque de Gros mots, qui est le dernier roman publié à ce jour de Régent Duchard, c'est-à-dire en 1999, semble n'être qu'une éternelle répétition. Jour après jour, Johnny, le narrateur et personnage principal du roman, répète la même routine. Après un déjeuner orageux avec Exa, qui est sa conjointe, Johnny se lance dans le tour de l'île qu'il habite. Ce tour est précédé ou suivi de la lecture d'une entrée du cahier de Walter, un journal intime abandonné par son auteur, que Johnny a trouvé quelque part sur l'île. Dans ce cahier consigné quotidiennement le récit d'un homme menant une vie étrangement similaire à celle de Johnny. Le tour de l'île est parfois ponctué de commissions, toujours interrompu par un arrêt à l'une ou l'autre des buvettes de l'île, où Johnny passe un moment au téléphone avec sa petite tœur, qui est la conjointe et la conjointe de son meilleur ami Julien. Johnny aime petite tœur d'un amour pur et chaste, c'est-à-dire qu'il ne se passe jamais rien entre les deux. Ensemble, ils se livrent à l'analyse du cahier de Walter, tentant de percer le mystère de son auteur et protagoniste. Par la suite, Johnny rentre chez lui et y passe la soirée, parfois à lire ou à regarder la télévision avec Exa, parfois partageant un moment d'intimité avec elle, mais essayant principalement de résister à la tentation de faire quoi que ce soit qui pourrait améliorer ou envenimer leur relation. À l'occasion, lorsque la petite tare se montre trop insistante, Johnny se rend chez elle, cédant sous le coup de l'impulsion. Le lendemain, tout recommence à peu près de la même manière et dans la même séquence. Gros mots serait-il donc une sorte de jour de la marmotte? On pourrait presque le croire. Toutefois, pour reprendre les mots de Johnny comme métaphore du récit, et je le cite, « celui-ci va un pas plus loin à chaque tour ». C'est-à-dire que malgré la grande répétitivité du roman, qui donne l'impression que rien ne s'y passe et qu'il tourne en rond, l'histoire évolue tout de même, pas à pas, contre la volonté de son protagoniste qui voudrait que, et je le cite, « tout reste comme c'est, toujours pareil ». Puisque, dans les mots du roman, il n'y a pas à chercher mieux, il n'y a pas mieux. Cette communication propose d'examiner comment la résistance du personnage façonne ce dernier de même que son récit. Refusant d'avancer ou de reculer, voulant que tout soit toujours pareil, Johnny tente sinon d'immobiliser, du moins de ralentir l'inéluctable mouvement d'évolution auquel toute vie se voit forcément assujettie, imposant à sa vie et à son récit une structure non linéaire, une géométrie circulaire qui provoque un retour constant au même. Nous verrons notamment comment le tour d'île que Johnny effectue à la marche à chaque jour entraîne la circularité du récit, tout en servant de mécanisme de résistance et de distanciation, ainsi que de lieu de réflexion. La circularité imprègne l'ensemble de l'œuvre, qu'il s'agisse des éléments fondamentaux de la narration comme l'espace, le temps, l'histoire et les personnages, des renvois intertextuels ou du mécanisme de la mise en abîme qui est central au roman. Que ce soit l'île qui confine les déplacements du personnage principal à son sempiternel tour d'aile, un surnom qu'il donne au tour d'île qu'il effectue quotidiennement en l'honneur d'une journée passée sans sa petite tare. Ou qu'il s'agisse de la division du temps de la narration en journées cycliques rythmées par des activités répétées quotidiennement, ou même l'obstination du personnage principal à refuser toute progression, régression ou modification de sa situation actuelle, tous ces éléments participent à la logique de la circularité qui régit le roman. Qu'entend-on par circularité du récit? Bon, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'études faites sur la circularité, donc il y a principalement seulement Jan Baitens dans son article « Qu'est-ce qu'un texte circulaire? » Selon lui, Il existe deux catégories principales de circularité dans un texte narratif. La circularité de l'histoire racontée et la circularité du discours racontant, c'est-à-dire de l'histoire et du récit respectivement. Si la circularité de l'histoire et celle du récit peuvent être distinctes, indépendantes l'une de l'autre, jusqu'à un certain point, elles peuvent également être en coprésence ou opérer de pair dans une œuvre, ce qui est le cas dans Gros mots. Dans ce roman, la circularité de l'histoire se manifeste autant au niveau micro, comme dans les petits gestes du quotidien, qu'au niveau macro, le dénouement renvoyant au début du roman. Quant à la circularité du récit, elle est structurante et ce, de plus d'une façon. L'excipit renvoie à l'incipit et le récit est dupliqué à l'interne par une mise en abîme. Dans Gros mots, ces deux catégories de circularité sont donc imbriquées en ce qu'elles s'influencent l'une l'autre. La mise en abîme cause une réduplication du récit et donc de l'histoire qui est racontée. Et l'histoire répétitive de Johnny influence forcément la structure du récit. La circularité de ce roman n'est pas qu'une fabulation analytique. Ducharme sème des symboles du cercle à travers le roman, symboles qui réfèrent évidemment à la circularité globale qu'il régit. On pense aux cailloux même pas tout à fait ronds. Ça, c'est une citation que Johnny empoche. On pense au rêve de petite tarte dans lequel elle se trouve au milieu d'un lac, ou encore de l'amour fait pour être cherché, pour tourner autour en orbite, ou même de l'allusion à la Terre qui tourne. L'un des symboles du cercle des plus évidents que compte ce roman est l'île sur laquelle Johnny habite. Comme nombre de choses chez Ducharme, ce symbole n'est pas gratuit ou vide de sens. Dans son article « La métaphore de l'île ou la pensée des mots chez Régent Ducharme », Régent Baudouin note que l'espace insulaire est récurrent chez Ducharme. Baudouin mentionne notamment l'île sur laquelle se trouve la maison familiale de Bérénice de la Vallée des Avalées, les îles que Mille-Mille et Châteauguay quittent au début d'une équivoque, et celle de Ferrier et de Vincent dans Les Enfantons. Selon lui, et je le cite, « la métaphore de l'île rassemble un nombre considérable de préoccupations reflétées dans l'œuvre de Ducharme. Beaucoup de celles-ci sont contradictoires ou paradoxales. La vulnérabilité, la peur, l'angoisse, la terreur sont associées à l'isolement insulaire, mais la connotation admet inversement la sécurité, l'immanence ou l'éternité. Il est vrai que l'île évoque à la fois l'isolement et la sécurité, en ce qu'elle constitue un lieu séparé du reste du monde par un cordon de sécurité qu'est l'eau qui l'entoure. Un endroit éloigné et reclus, un ailleurs attirant pour quiconque voulant se retirer de la société, cristallisé dans le discours social par le topos de l'île déserte, sorte de paradis inaccessible. Toutefois, cet isolement d'apparence solitaire peut aussi s'avérer angoissant et étouffant, puisque l'île est un espace clos dont les limites spatiales peuvent être concrètement et douloureusement éprouvées. La forme circulaire de l'île contribue également à la double perception de celle-ci, puisqu'en soi, le cercle est une ligne qui n'a pas de fin, dont le point de départ est soudé au point d'arrivée. Le contour circulaire de l'île est, pour reprendre les mots de Johnny, une sorte de circuit qu'on peut recommencer indéfiniment. Comment s'arrêter, demande-t-il. Où et pourquoi? On est au bout du chemin à chaque pas sur un chemin où on ne peut trouver que du chemin. Cette absence de fin confère au cercle des attributs tels que l'immanence, l'infini ou l'éternité. Dans Gros mots, l'île agit comme une enceinte close à l'intérieur de laquelle presque toute l'histoire de Johnny se déroule, exception faite de quelques virées en ville. Pour Johnny, cette clôture est positive, puisque ce qu'il craint le plus est de se faire expulser, éliminer, déloger. Ça n'a pas l'air de s'arranger, mais je vais pas me ronger. C'est mon histoire. On est ici chez moi. On ne va pas me déloger comme ça. Se débarrasser du héros en trois coups de cuillère à mots, annonce-t-il d'entrée de jeu. Le combat de Johnny contre tout ce qui pourrait le faire disparaître persiste tout au long du roman. À cet effet, déterminé à ne pas se laisser abattre, Johnny fait de son mieux pour ériger des barrières, définir des limites à ne pas franchir, dans le but de contrer tout changement qui, selon lui, causerait inévitablement sa perte. L'île, avec l'eau gelée qui l'aborde à perte de vue, avec, et je cite, « rien pour arrêter le regard, aucune interruption dans la blancheur du confluent paralysé », est le terrain idéal pour ce personnage qui se sent constamment menacé d'expulsion, même de l'histoire dont il est le héros et le narrateur. Le tour de l'île devient graduellement, au cours du roman, le fil conducteur par lequel Johnny se laisse guider. Son contour agit ainsi comme un cordon délimitant, l'espace où Johnny évolue. On ne fait plus le tour d'elle en l'allongeant, en l'effleurant, en frôlant ses bords. On se fie tout le long sur elle, sur l'illusion d'être portée, dit-il. Ce tour de l'île, Johnny l'adopte peu après le début du récit, alors qu'il est désormais sans occupation, sans travail, et en froid avec Petite Heure. Il dit « Pour meubler mes loisirs élargis, déclarer Toto, et voir un peu ce que ça donnera en longueur de temps, je n'ai pas coupé par la montée du milieu. Je me suis laissé continuer le long du bord de l'eau épaissie par le froid, noirci par la clarté de la neige, et je me suis ramassé à la jonction de l'avenue du Mail, à l'autre bout par rapport à la direction que je prends quand j'ai des courses à faire dans le Mail mal proprement dit. Je me suis remis en chemin en ruminant des douleurs qui alimentaient des dessins de plus en plus cruels, si appliqués que je suis passée sans le réaliser devant le roi du chien chaud, où j'aurais encore été tentée de me déshonorer en criant au secours. Et j'ai bouclé en 4 heures un circuit où je n'aurais tourné qu'autour d'elle et que je nommerai le tour d'elle en souvenir d'une journée amputée d'elle. » Comme on peut voir, Johnny perçoit son tour d'elle comme une manière de tuer le temps et de s'occuper. Et pour cette raison, il l'intègre immédiatement à sa routine quotidienne. « J'ai fait le tour d'elle, je le fais toujours à présent, ça simplifie tout. La journée y est complètement engloutie. Je pars après que j'ai fini de me lever, je reviens à la noirceur », déclare-t-il. Stéphane Hinkel, dans sa thèse de doctorat sur la langue maternelle chez Ducharme et Beckett, affirme que le tour d'elle fait de Johnny une nouvelle figure dans l'univers ducharmien, celle de l'arpenteur. L'arpenteur est, selon Hinkel, et je le cite, « un sujet qui fait de l'errance, fuite ou promenade, le geste par excellence de son activité. Que cette errance se traduise par un va-et-vient entre les divers objets du désir du sujet, ou qu'elle cherche plutôt à établir une mise à distance avec ces mêmes objets, il en résulte la création d'un espace propre où celui-ci habite, une aire de jeu et de discernement qui délimite sa place à l'intérieur du monde. » Effectivement, la distanciation, d'avec Petite Heure notamment, est l'une des fonctions que Johnny attribue autour d'elle. La répétition du tour finit par créer une distance réelle entre Johnny et ses tentations, ce qu'il annonce d'ailleurs à Petite Heure vers la fin du roman. Je le cite. « C'est le tour de toi qui est de plus en plus long. C'est comme si je pouvais, un de ces jours, ne plus jamais revenir de toi. » À la fois passe-temps et mécanisme de distanciation et de résistance, le tour d'elle est aussi l'occasion pour Johnny de réfléchir, de se remettre en question, de se donner des forces et du courage. C'est notamment lors de l'un de ces tours d'elle que Johnny énonce son projet, sa résolution. Je le cite. « Résister. Tout le long en remontant aux deux îles, je me le suis répété. La loi qui force à changer, à progresser ou régresser, s'épanouir puis se flétrir, on se cramponnera et on la violera. On ne se soumettra pas. Je veux que ça reste comme c'est, toujours pareil. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas mieux. » Johnny se pose contre la loi de l'évolution, cette loi qui force à changer, que ce soit positivement ou négativement. Revisiter sans cesse les mêmes lieux, qu'ils soient physiques ou mentaux, en plongeant dans ses souvenirs, se tenant les mêmes discours, recensant les mêmes idées, avec les mêmes mots presque, permet à Johnny d'accroître sa résistance. Le tour d'elle se voit ériger à cet effet comme limite spatio-temporelle à l'intérieur desquelles Johnny vit sa vie, qu'il s'agisse d'un emprisonnement ou d'un exil auto-imposé, dans le but de se préserver, de se protéger de lui-même et des autres. Confiné dans un espace circulaire dont il parcourt sans cesse le périmètre afin de se mettre à distance de tout danger, afin d'accroître sa résistance envers tout heurt, toute tentation, entraîne nécessairement la circularité. Autrement dit, cette circularité désirée, forcée et imposée par Johnny influence nécessairement le cours de l'histoire, de même que le récit tel qu'il le raconte. Le tour d'elle auquel Johnny se livre chaque jour devient de cette façon non seulement un élément structural du récit, mais aussi de sa propre psychologie. Régent Baudouin suggère d'ailleurs dans l'article cité précédemment, que la figure insulaire résume la condition même du personnage ducharmien. La répétition quotidienne des mêmes événements, alliée à la circularité de la composante spatio-temporelle du roman, donne au lecteur une impression de répétitivité écrasante, l'entraînant sur un chemin dont il n'entrevoit pas la fin, comme si l'existence de Johnny était vouée à un éternel recommencement, semblable au châtiment auquel Prométhée et les Danaïdes sont voués. Or, l'éternel recommencement ne constitue pas un supplice pour Johnny, il s'agit plutôt de ce à quoi il aspire. Ce qui se trouve derrière l'obstination de Johnny à résister et à tout répéter commence à s'éclairer. Si Johnny est persuadé que sa vie risque à tout moment d'être anéantie et que le seul moyen d'y échapper est de demeurer tel quel et de se soumettre à un cycle constamment recommencé, c'est qu'il sait que son fragile équilibre n'est pas seulement menacé par les autres ou par son environnement, mais qu'il pourrait également être démoli par sa propre faute. Johnny, autodestructeur, comme nombre d'autres personnages du Charmier l'ayant précédé, semble presque irrésistiblement attiré vers le vide, vers tout ce qui a la capacité de le dissoudre, de le faire plonger dans le néant, comme l'alcool. Or, Johnny n'a pas la même attitude ni la même agentivité par rapport à son anéantissement que les Fairons de l'hiver de force ou de Bottom de Dévadé, par exemple. Les Fairons se défont volontairement de tous leurs biens et se réjouissent lorsqu'ils constatent qu'ils sont, et je cite, « un vide qui se refait ». Bottom, quant à lui, se gave d'alcool, poison qui ranime et attise les remords, qui gruge sa conscience. L'autodestruction, si désirable, si alléchante pour ses personnages, n'est pas une solution viable pour Johnny, qui n'a rien à évacuer, qui ne se refait pas de lui-même, contrairement à ses autres personnages. Johnny est un personnage qui résiste à sa chute, qui se cramponne devant le vide en train de se faire de lui-même, qui refuse son anéantissement, son effacement. Marcher dans ses propres traces apparaît dès lors comme un moyen pour lui de ne pas se laisser réduire à rien. Je cite. On s'était battu un sentier, un chapelet de foulée qu'après les tempêtes, on s'amusait à recréer, suivant les ombres en creux laissées par nos traces effacées. Pourtant, à d'autres moments, Johnny semble croire que se laisser réduire à rien pourrait bien être ce qui le rendrait, paradoxalement, irréductible, selon la logique suivante. Je cite. « Si on n'est rien, si on l'est bien, si on l'est tout à fait, on ne risque rien en effet, puisque rien ne se perd pas, ne se détruit pas, qu'il est notre milieu naturel, éternel, que la vie n'est qu'un moment absurde, insignifiant de notre existence. » Malgré toutes ses résolutions, Johnny ne semble en fait être capable de vivre avec lui-même que lorsqu'il n'est pas tout à fait là, que lorsqu'il peut oublier qui il est. Je cite ces mots. « Ça me tue quand je ressors et qu'il fait encore jour. En me rendant visible, il me révèle à moi, il me réalise, il me concrétise, il me précipite au fond de la solution où je flottais, où je m'étais dissous, il me rend à mon poids, à mon obstacle insurmonté, à mon anomalie. Je me sens comme Dracula, je plongerai dans le premier cercueil. » En effet, que ce soit dans le noir de la nuit, de la taverne, ou dans le blanc éblouissant de la neige, on pouvait disparaître et je suis de bon gré disparu, dit Johnny, un long moment, tout s'aveuglant un néant total, comme dans la plus grande épaisseur de ténèbres. L'attirance de Johnny pour la clarté aveuglante ou pour la noirceur la plus sombre, dans lesquelles il peut se dissoudre, croît au fur et à mesure que le roman progresse et que les changements semblent inévitables, marquant une transformation subtile et graduelle de la connotation associée à la réduction, à la disparition, à savoir d'un danger contre lequel il faut lutter à une chose potentiellement souhaitable. André Goulet, dans son article « Gros mots et autres vacheries », suggère que, et je le cite, « le désert blanc constitue une manière de passage obligé du désœuvré Johnny, un vaste et douloureux purgatoire qui lui permet d'une certaine façon de s'oublier, lui et ses fautes, de se blanchir et de repartir de rien. La neige, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'un blizzard, de congère, d'un tapis blanc ou de glace, et dans gros mots fortement associé au concept de la table rase, au recommencement à neuf, à ce qui n'a pas encore été fait. La neige permet de revivre les premières fois, crée le silence après la tempête, efface les traces, rend la page blanche. Lorsque le vent la déblaie, Johnny découvre sous elle une surface neuve, pas encore salie. En ce sens, la position de Johnny semble paradoxale, conflictuelle. Il ne veut pas se laisser déloger ou anéantir, mais il n'est à l'aise que lorsqu'il n'est plus lui-même. De la même manière, il n'arrive pas à se décider entre répéter ou recommencer à zéro, ne semble pas savoir ce qu'il désire réellement, effacer son ardoise ou rester exactement tel qu'il est, inchangé. Cette parole de Johnny exprime bien cette ambiguïté. Parlez-moi d'un chemin blanc. Parlez-moi d'un voyage blanc entre deux berges blanches, évoque-t-il. Un chemin blanc qu'aucun calcium n'aura salopé, que rien ne viendra ternir ou altérer en y laissant des traces. Le chemin circulaire qu'emprunte Johnny et le lecteur à sa suite peut sembler sans issue, sans véritable résolution. Gros mots sera un autre de ses romans qui se termine en queue de poisson, avec l'abandon de la quête du narrateur et la réinsertion de ce dernier dans la société hors du roman, sans faire de vagues. Au contraire, le roman présente le combat intérieur d'un personnage ambivalent, tiraillé entre son instinct de préservation et ses pulsions autodestructrices, et qui choisit la résistance, un peu par défaut, faute de mieux. À cet effet, le personnage principal tente de résister au changement, misant sur la répétition comme gage de statu quo, répétition qui, dans ce roman, est engendrée par la circularité et l'engendre elle-même davantage. Or, si la circularité semble de prime abord au service de la résistance, visant à contrer l'anéantissement du personnage principal, elle contribue ultimement à sa perte. La géométrie circulaire que Johnny impose à sa vie ne s'applique pas également à tous les autres personnages, qui ont d'autres motivations, d'autres expériences, ce que Johnny comprend tardivement. À la fin du roman, Johnny a beau faire son tour d'île à l'endroit, à l'envers, rien ne va plus, rien ne fonctionne plus comme il se doit, c'est-à-dire comme avant. Devant ce constat, Johnny boucle la boucle de son récit. Il lâche prise et se laisse déloger de sa propre histoire en quelques coups de cuillère à mots. Merci.
Impression, envie de discuter.
Oui.
Moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a quand même un amour platonique entre Star et Johnny, si tu le percevais comme vraiment faisant partie de la résistance du personnage, parce que ça les empêche d'aller plus loin ou de progresser dans une relation qui évoluerait d'une certaine façon.
Ouais, en fait, ça, c'est un passage retranché, malheureusement. En fait, Petit Star incite Johnny constamment. Viens me voir. Elle n'arrête pas de lui dire ça dans le roman, c'est constant. Lui, il veut pas. Il veut résister parce qu'il se dit, si jamais je cède à Petit Star, Exa va me mettre dehors. Si ça marche pas avec Petit Star, je me retrouve dans la rue. Donc, il y a toute une espèce de logique de préservation derrière ça qui empêche Johnny de se laisser aller à ses désirs avec Petit Star. Puis, vers la fin du roman, Petit Star se rend compte qu'il n'y a pas d'avenir avec Johnny parce que à chaque fois qu'il est chez elle, il s'en va. Elle l'invite dans la chambre à coucher, il part. Donc, elle-même tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Puis, c'est un des éléments déclencheurs de la chute de Johnny, si on veut. Petit Star part avec quelqu'un d'autre. Elle abandonne son mari Julien, évidemment. Elle part avec un musicien. Johnny se retrouve désemparé, sans Petit Star. Exa elle-même se trouve un autre amant. Donc, il se rend compte que la résistance, il a beau croire à la résistance, puis essayer de tout garder tel quel, il peut pas imposer sa volonté aux autres personnages.
Oui, selon toi, tu l'as peut-être sous-entendu dans ta communication, mais selon toi, qu'est-ce qui fait que le personnage est contemporain?
C'est une bonne question. Je pense que je pourrais le rattacher à un certain type de personnage contemporain qui est le personnage déconflictualisé, si on veut, c'est-à-dire le personnage qui essaie d'éviter les conflits. Si on fait le contraste avec les personnages des romans réalistes ou romantiques, le personnage était en conflit contre la société. Ça se poursuit dans le 20e siècle aussi avec André Gide qui dit notamment « Famille, je vouais », bon, il y a un conflit assez prenant dans ces œuvres-là. Ici, la différence, c'est que le personnage essaie d'éviter les conflits. Il croit pas qu'il y ait d'avenir dans le conflit. Il croit pas essayer de recoller les poids avec Exa ou au contraire la laisser. Il croit pas qu'il va avoir d'amélioration de sa situation. Il croit pas au progrès. Il croit pas à l'évolution. Si je fais même le contraste avec d'autres personnages de Charme, si on prend Mille-Mille dans l'Unéquivoque, Mille-Mille, lui, il se dit, il est aussi contre la loi de l'évolution, mais lui, il prône la régression. Il se dit, retournons en arrière avec tous ceux qui nous ont précédés. Puis là, il cite Marie de l'Incarnation. T'sais, il va loin, là. La différence avec Johnny, c'est que il veut pas bouger. Il veut pas entrer dans le conflit. Il voit pas d'avenir là-dedans. Puis c'est souvent ce genre de personne. Ben, il y a de nombreux romans contemporains qui présentent des personnages également déconflictualisés. Si on pense, par exemple, à Maryse de Francine Noël, bon, Maryse, c'est un roman féministe. De toute apparence, Maryse, elle semble être en conflit avec la société, mais est passive, elle est pas bien avec Michel Paradis, mais elle reste avec lui. Elle étudie en littérologie, mais elle n'assiste pas vraiment au cours, elle se laisse aller, si on veut. Donc, sans vouloir nommer 15 exemples de ça, je pense que c'est peut-être un phénomène québécois ou pré-année 2000, là. Je dois dire que, bon, Maryse, ça date quand même, là. Il y a plusieurs personnages principaux qui évitent le conflit ou qui sont dans l'intériorité. On peut penser aussi à plusieurs romans de Jacques Poulin.
Dans le fond, ça me faisait penser un peu, tu sais, dans le fond, notre génération, nous autres, elle veut changer les choses, puis dans le fond, il est contemporain au même titre que, mettons, au même titre que nous autres, on veut pousser et changer les choses. Puis, dans le fond, c'est le contraire, mais ça revient à la même chose, dans le fond.
Ouais, ben ça dépend. C'est comme c'est difficile de faire une généralisation. Puis, en fait, j'avais passé un séminaire à étudier justement le personnage contemporain. C'est vraiment... ce serait dur de faire une généralisation par rapport à ça, par rapport à plusieurs romans contemporains québécois ou même contemporains en général. Il y a plusieurs types de personnages qui semblent émerger, puis c'est dur de les englober dans des catégories. Je pense que ce qui fait de Johnny un personnage contemporain, c'est justement sa différence ou son refus de s'engager, son refus de sa propre agentivité.
Merci. Oui? Je trouve ça intéressant que vous l'opposiez en régime parce que d'une certaine façon, on a lu et on retrouve le même phénomène du personnage qui est très statique, qui ne veut pas du tout bouger, qui reste dans son petit marais, qui protège du monde, en fait, d'une certaine façon. Est-ce que, en fait, tu penses que dans le roman contemporain, il y aurait une possibilité, justement, de reprendre cette veine-là, qui est une partie des romans contemporains qui reprend cette idée-là, qui travaille l'idée de la stagnation, non?
Ça ne m'étonne pas du tout. Premièrement, c'est... C'est intéressant que tu soulèves ça parce que j'ai pas lu Palude, mais il y a une grosse partie de mon mémoire qui est dédiée à l'intertextualité avec Gide de Grosmot, avec les cahiers d'André Walter, justement, de Gide, qui est une œuvre de jeunesse assez misérable et oubliée, probablement, heureusement. Je dis ça, tout ça pour dire que je sais pas si... J'ai pas fait les recherches, évidemment. Je sais pas si Charme a intégré un intertexte de Palud en plus de l'autre intertexte. Mais si on va voir dans les travaux, par exemple, de Janet Patterson ou Linda Hutchin, on voit que le roman postmoderne reprend beaucoup les genres anciens, puis les réactualise, si on veut. C'est sûr qu'avec les genres plus anciens, il y a aussi toutes les espèces de paradigmes, puis notamment celui du le paradigme du conflit qui devient celui du non-conflit ou la stagnation. J'ai l'impression, sans vouloir faire une déclaration vraiment générale et non fondée, le roman postmoderne récupère énormément de matière des siècles précédents ou des genres précédents, puis c'est sûr qu'avec avec ça, ça vient aussi les thèmes, puis les idées comme celle de la stagnation. Je suis sûre que c'est pas une nouveauté du roman postmoderne, là. Pas du tout.
Ça me fait demander ça. Est-ce que le monsieur avait dit plutôt par rapport à l'opposition avec les anciens genres, est-ce que ce serait pas justement en fait ce qui fait l'éclatement du genre contemporain, ça pourrait pas être ça justement, le fait qu'on accepte un peu ce qui s'est fait dans le passé, puis qu'on va piger un peu partout vers ce que l'auteur va avoir préféré, par exemple, qui va créer comme une plus de connexions à faire, plus de genres différents dans la même époque.
Oui, je pense qu'il y a de ça aussi parce que le postmoderne, en soi, si on fait juste le prendre étymologiquement, c'est ce qui vient après le moderne. Le moderne, c'était l'ère justement des conflits. Bon, t'as le romantisme, t'as le réalisme qui vient en réaction à ça, puis après ça, t'as les mouvements s'enchaînaient qui étaient tous en réaction les uns aux autres. Avec le postmoderne, c'est plus vraiment en réaction par rapport à ce qui venait d'avant. Il n'y a pas un mouvement de colère ou de conflit, en tout cas. D'après ce que j'ai lu, puis mes propres recherches. Mais je pense que oui, on est rendu... le roman postmoderne fait beaucoup dans le recyclage, la récupération, la réactualisation. Oui, il y a de ça, je suis persuadée.
Nicolas?
Oui,
est-ce
que tu connais celui de Jules Verne,
Le
Roman Postmoderne? Quand tu parlais du conflit, je pense que tu l'as fait tout à fait à juste titre, tu as parlé un petit peu de la question du progrès. Et donc, ce vers quoi je veux t'amener, c'est la question de la temporalité et régime d'historicité. Parce que dans le fond, le conflit, c'est constater l'état du monde et se dire qu'il pourrait y avoir mieux plus tard. Donc, se projeter vers un avenir. La posture de ton personnage, c'est justement l'inverse. C'est se dire que ce qui pourrait arriver plus tard serait nécessairement moins bien. Donc, préservons, et ça irait vers ce qu'on appelle le présentisme. C'est-à-dire que lui, pas appelé par le passé, c'est pas ce qui était avant qui était meilleur, c'est pas un des moments qui chante, mais c'est juste tâchons de préserver juste le moment présent et de le couper d'une espèce de flux temporel. Puis je trouvais, il n'y aura pas de questions, c'est comme deux observations. J'essaie de voir si ça pose des mouches sur une, puis non. Je trouve ça intéressant le dialogue que ça fait avec le roman d'Alain. Parce que de M. Parrain, parce que lui, au contraire, c'est tous les temps en même temps. Il a superposé les multiples couches, alors que la posture de ton personnage, c'est non juste le présent, écartons le plus possible. Mais peut-être qu'il va articuler la question de la gentilité et du conflit avec la question de la temporalité.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre observation. Effectivement, c'est un personnage que s'il pouvait, il n'y en aurait pas de lendemain. Ça serait toujours aujourd'hui, en ce moment même. Puis, c'est très juste, justement, le rapport de cette temporalité-là, du au jour le jour, avec le refus du progrès ou du conflit, ou même de la possibilité d'avenir. Mais c'est aussi un personnage qui refuse le passé. Il veut pas retourner dans le passé parce que, ça, c'est un autre passage retranché, il a vécu un traumatisme. Son anomalie, c'est un traumatisme qu'il a vécu, puis notamment qui est constitué de plusieurs choses, dont l'abandon de sa mère, qui vient peut-être jouer aussi avec sa résistance acharnée à pas modifier sa situation. Donc, l'abandon de la mère, puis ensuite, bon, un séjour dans une prison à Toronto, qui est un petit peu ridicule, mais ça fait partie du personnage, puis justement, c'est un personnage qui voit justement rien d'autre que le présent, puis qui veut rien envisager d'autre que le présent, donc c'est tout à fait juste.
C'est juste une réflexion par rapport à ça, on dirait que tu parles du fait qu'il est présent du sub, ça fait juste entendre avec du charme, mais c'est l'enfance finalement.
d'être là maintenant et de vouloir changer.
Ça serait difficile pour moi de dire que ça serait de l'enfance parce que, au contraire, les romans d'enfance de Duchamp, qui constituent juste une très petite partie du corpus, ils sont pleins de conflits, ils sont pleins de... On veut se projeter soit vers l'avant, vers l'arrière. On s'en fout en autant qu'on détruit sur notre passage puis qu'on se fait. C'est des espèces de romans d'apprentissage ou des romans justement de coming of age qui sont pleins de violence, pleins de conflits, alors que les romans de l'âge adulte qui apparaissent à partir de, mettons, l'hiver de force, même un peu avant l'hiver de force, c'est que, oui, au début, il y a encore le conflit, mais c'est un conflit qui est comme résigné. Ah, on est un vide qui se refait, donc on peut se défaire de tout, ça va revenir tout le temps. Ici, il n'y a plus rien. C'est comme, il n'y a plus rien devant le personnage, il n'y a plus rien derrière. Puis au jour le jour, c'est pas un au jour le jour de l'enfant qui saisit pas nécessairement les conséquences. C'est un au jour le jour de quelqu'un qui connaît les conséquences puis qui veut les éviter à tout prix. Je sais pas si ça répond à ta question.
Absolument. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.